Radio Estable.
Morning Edition from
NPR.
Lo que se reproduce esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et la première escale sonore d'un jour dans le monde nous emmène au Kurdistan. Ce soir, il y a deux mois, là-bas, les habitants n'étaient qu'excitation et euphorie après un référendum sur l'indépendance qui avait dit oui à une écrasante majorité. Aujourd'hui, rien ne va plus et vous verrez pourquoi. 18h40, l'actualité en série, le Brexit saison 2 et la comédienne Tracy Ullman qui fait du Brexit son bread and butter, son fonds de commerce, ça fait rire les Anglais. 18h55, Anthony Bélanger, tiens, lui, s'est concentré sur le mariage du prince Harry avec une américaine actrice et divorcée. Ça vous rappelle forcément quelque chose, mais heureusement, les temps changent. Avant cela, la Coupe du Monde de foot rend son tirage au sort vendredi prochain. Vladimir Poutine, le tirage, il s'en fiche sans doute un peu, mais l'organisation de la compétition, ça, pour le coup, ça l'intéresse. Une manière, une fois de plus, de mélanger sport et politique, diplomatie et sport. Et on y vient tout de suite. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Learning judo with Vladimir Putin.
Let's study judo with Vladimir Putin.
Це з Владимиром Путіним. Російський прем'єр лично представив в Константиновском дворце Петербурга фільм з таким названням о главном для себя виде спорта – дзюдо, которым он занимается с 13 лет.
Лента состоит... Voilà, on aura appris qu'on dit дзюдо en russe, donc pour le judo, on s'en est vite rendu compte qu'il est fort quand même, ce Vladimir Poutine. 8e dan de judo, ce qui est un niveau exceptionnel, proche de celui de Teddy Riner, si je ne m'abuse, voire plus d'ailleurs que Teddy Riner. Il joue au ok, il se défend plutôt pas mal en équitation, il a montré qu'il savait faire des exercices de musculation, il a fait du bobsleigh, il pêche au gros, ce qui est une forme de sport, il sait conduire une Formule 1. Après les JO d'hiver à Sochi, la création d'un Grand Prix de Formule 1 de Russie, l'obtention de la Coupe du Monde de 2018, dont le tirage donc est vendredi, décidément la Russie a beaucoup accentué sa présence sur la scène sportive, ça s'appelle le soft power. Bonjour Carole Gomez.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'IRIS, votre spécialité précisément c'est l'impact du sport sur la diplomatie. Alors ça date pas d'hier, hein, la performance au service de la grandeur de pays, on se souvient de l'ex-URSS d'ailleurs, des Allemands de l'Est particulièrement, Allemands 2 de l'Est d'ailleurs. Est-ce qu'il renoue avec une tradition finalement, avec cette tradition-là, Vladimir Poutine ?
Au final, il va avoir tendance à véritablement continuer, s'inscrire dans la logique de faire du sport une nouvelle façon d'imposer son pays sur la scène internationale. Puisque pour lui, si les résultats sportifs sont à la hauteur, si le pays arrive à démontrer qu'il est capable d'organiser avec brio un événement, ça veut dire que le pays est de retour sur la scène internationale tout court.
Mais ça marche vraiment, quand même, aux yeux des Russes.
Alors ça, c'est quelque chose qui, notamment, a été...
Est-ce que ça se mesure ?
Alors, c'est ça qui est extrêmement compliqué. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est par exemple pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Sochi, mm-hmm. ça a véritablement eu un impact sur la population, puisqu'on a vu des populations très présentes lors des manifestations. Il y avait aussi cette volonté de réunir le pays autour de cet événement et montrer qu'en fait, la Russie était de retour.
Mais même si ça a coûté un prix exorbitant, les jeux les plus chers de l'histoire, est-ce qu'au contraire, finalement, d'ailleurs, c'est plutôt positif pour les Russes que ça a été les jeux les plus chers de l'histoire ? Ou est-ce que quand même, à un moment, ils ne demandent pas la facture, les Russes ?
Alors ça n'a pas du tout été mis en avant par la très grande majorité. Il y a un certain nombre de voix qui se sont justement élevées pour essayer de dénoncer cette facture qui, d'un point de vue officiel, a été estimée à 42 milliards d'euros. Donc on vous laisse imaginer à peu près quelle est la facture réelle. Et c'était plutôt une façon de dire la Russie arrive à mettre des moyens pour faire quelque chose de grand et de très grand. Et ce d'autant plus que Sochi avait une importance assez particulière en Russie, puisque c'était l'ancienne ville de villégiature des anciens dirigeants de l'ex-URSS. Et il y avait du coup cette volonté de refaire vivre une ville, une région qui n'était pas forcément très proche de Moscou, donc augmenter le tourisme, augmenter les liaisons avec ça, et aussi montrer que la Russie et Vladimir Poutine, c'était pas simplement Saint-Pétersbourg, c'était pas simplement Moscou, c'était aussi la présence sur l'ensemble du territoire.
Mais d'ailleurs, il continue, parce que si je ne m'abuse, et vous allez m'arrêter si je me trompe, le fameux circuit de Formule 1, c'est à Sochi qu'il aura, qui va se tenir aussi.
Et qu'il est déjà, en fait, il a déjà été réutilisé dès le lendemain des Jeux Olympiques et Paralympiques, pour justement ne pas laisser ces éléphants blancs qu'on pourrait appeler, avec des infrastructures, donc autoroutes, ponts, tunnels, aéroports, mais aussi tout ce qui est hôtellerie, et donc du coup avoir une véritable rentabilité entre guillemets sur le long terme.
Avec la même stratégie finalement sur le foot dont on parle, puisque pour l'instant on dit 21 milliards chiffre officiel.
C'est ça.
Donc ça doit vouloir dire pareil que le chiffre officieux est bien plus haut, mais pareil, ça veut dire on n'hésite pas à mettre énormément d'argent et on le montre.
montre, en fait.
Bah, au final, il ne faut pas non plus oublier que la Coupe du Monde de football est l'un des événements, voire le plus grand événement, qui est regardé à travers le monde, qui est retransmis.
Au-delà des JO, il faut le rappeler.
Très largement ouais. au-delà des JO, la finale est un événement qui est considérable. Tout le monde peut se rappeler où est-ce qu'il était pour la finale, par exemple, 98, parce que ça nous a particulièrement importé. Donc au final, c'est aussi vraiment l'objectif de mettre un maximum de moyens humains, financiers, sur cet événement-là, puisque tout simplement, la Russie sera au centre du monde pendant un mois et qu'elle sera sous l'œil des projecteurs. Et donc, il faudra arriver à montrer une image positive de la Russie, dynamique, qui fait des choses, qui sait entreprendre, etc.
Et même avant, d'ailleurs, puisque les élections, c'est au mois de mars.
Exactement.
Donc, c'est aussi une manière d'amener l'année Poutine, l'année électorale, parce qu'on verra sortir les stades de terre pendant toute la campagne, en fait.
Il y en a déjà qui ont commencé. Puisque la dernière, en fait, chaque compétition de Coupe du Monde est précédée un an avant par la Coupe des Confédérations. Donc elle a déjà eu lieu en juin-juillet 2017. Donc il y a déjà eu cette espèce de cet entraînement pour vérifier que les stades étaient aux normes, etc. Il y a des constructions qui se poursuivent. Mais là encore, et de la même manière que pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Sochi, Vladimir Poutine est constamment sur ce terrain-là et il s'assure qu'il n'y aura aucun retard, chose qui avait été assez inquiétante pour Sochi, où il avait demandé à être tenu au courant presque heure par heure de l'avancée des travaux. Et là, c'est un peu la même chose pour la Coupe du Monde, même s'il n'y a pas les retards qu'on a pu connaître pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Alors, indépendamment de sa surveillance, effectivement, des bâtiments, de leur construction, la différence peut-être entre Poutine et les autres et l'avant, c'est sa propre mise en scène aussi. Oui. En fait, on plaisantait en parlant de sa huitième dame, mais le fait est que c'est vrai, il se dit champion de judo et diverses choses. Cette mise en avant de lui-même, lui sportif, là, pour le coup, c'est assez inédit quand même.
Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément retrouver dans les autres types de diplomatie sportive. On peut penser à la diplomatie sportive chinoise, qui ne s'inscrit pas du tout dans cette logique-là. Mais par contre, ça fait vraiment référence à l'histoire russe. Et plus exactement, à l'histoire soviétique. On avait vraiment tendance à vouloir instrumentaliser, fabriquer des héros. Et c'était un peu des idoles qui allaient être mis en avant et sur lesquels le peuple devait se baser. Donc là, il y a énormément d'ouvrages d'historiens du sport qui s'intéressent à ces sujets-là. Et c'est exactement ce qui est en train de reprendre Vladimir Poutine pour un peu caractériser, incarner ce renouveau russe et cet athlète russe.
Ça veut dire que le sport est un élément de son propre prestige. Mais si l'équipe perd en foot, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le prestige de Poutine qui tombe avec l'eau du bain, si je puis dire?
Alors, ça c'est effectivement une question qui est un peu compliquée pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'équipe de Russie et l'équipe d'ex-URSS a connu des très bons moments. Elle a été championne d'Europe, championne olympique. Elle a eu de très bons classements en Coupe du Monde. Et en fait, ça coïncidait toujours avec des périodes où l'URSS ou la Russie étaient particulièrement fortes. Et du coup, il y a une corrélation qui est faite entre les victoires de l'équipe russe de football et la bonne santé, on va dire, de la Russie sur la scène internationale. Donc là, c'est une vraie question qui va se poser, savoir un peu ce révélateur pour savoir s'il y a vraiment un lien entre ces deux questions. Et en revanche, c'est sûr que si la Russie est éliminée de son propre mondial dès le premier tour...
Les matchs de poule,
pendant les
matchs
de poule, exactement. Ça va être quelque chose qui va être extrêmement compliqué à gérer. Mais en même temps, on l'a vu par exemple pour les Jeux de Sochi, où la Russie n'est pas forcément terminée dans les toutes premières places. Elle est terminée quatrième de mémoire.
Ouais, mais 33 médailles, c'est un record pour la Russie
En sachant qu'il y a un certain nombre de médailles qui ont été retirées compte tenu des affaires de dopage.
Alors forcément, oui, on va forcément revenir. Juste un dernier mot quand même sur le foot. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que les géants de l'industrie russe sont en train de rentrer là-dedans. C'est Gazprom, par exemple, qui met ses couleurs sur cette équipe de foot qui est à Saint-Pétersbourg, le Zénith de Saint-Pétersbourg. Gazprom est entré aussi à la FIFA.
Comme partenaire de la FIFA.
Donc ça dit des choses, ça aussi,
oui,
j'imagine, de leur part.
Et c'est ça qui est aussi intéressant à relever, c'est qu'à chaque fois, on voit des petits éléments qui se dégagent à droite à gauche, soit sur les sponsors, soit sur les médias, soit sur des hommes d'affaires qui commencent à investir dans des clubs de football. Mais au final, si on met tous les éléments bout à bout, on voit qu'il y a une véritable diplomatie sportive qui est complexe et qui a été mise en place, pas du tout récemment, mais bien au contraire depuis une dizaine, quinzaine d'années, puisque le sport est dans l'histoire russe et dans l'histoire soviétique, a toujours été, ou du moins à partir du moment où... au tournant des années 30 où on a compris que le sport pouvait avoir une véritable importance dans l'avenir du pays et surtout pour les populations, il y a véritablement eu un investissement fort qui a été fait par l'ensemble des personnes qui avaient le pouvoir ou qui avaient l'argent pour le faire.
Alors Carole Gomez, vous l'avez un peu évoqué effectivement, mais il y a eu quand même cette histoire de dopage, de tricherie totale même, et alors de dopage même d'État, on avait dit. Est-ce que cette stratégie quand même de Vladimir Poutine bute là-dessus? Ou est-ce que le côté stratégie du complot, ça marche en fait auprès des Russes?
Il y a un peu des deux. Il y a toujours, alors en sachant que pour exemple pour les Jeux Olympiques d'hiver qui approchent et qui auront lieu en Corée du Sud dans 2 mois, il y a une très forte décision, il y a une décision qui est attendue du CIO qui doit justement déterminer si ou non
les Russes vont pas.
Exactement. En sachant que le CIO lors des précédents Jeux Olympiques à Rio et Paralympiques, les Jeux Olympiques à Rio, le CIO avait un petit peu botté en touche en donnant la décision aux fédérations internationales, alors que le comité paralympique avait lui décidé de carrément exclure.
Il faut rappeler quand même, on parlait des athlètes valides, on parlait des athlètes paralympiques, on parlait de toutes les disciplines. C'est quelque chose d'énorme que cette histoire de dopage.
C'était surtout mis en avant par un certain nombre de rapports qui montraient et qui n'hésitaient pas à utiliser le terme de dopage d'État, puisque c'était véritablement quelque chose qui était mis dont les plus hautes sphères de l'État ne pouvaient ne pouvaient pas être au courant.
On vous a suivi.
En sachant qu'il y avait aussi le laboratoire de lutte anti-dopage qui était impliqué pour ne pas avoir fait son travail correctement. Donc du coup, c'était véritablement quelque chose qui était à tous les niveaux.
Mais du coup, est-ce que ça touche Poutine, ça, quand même? Est-ce qu'il y a un vrai soupçon en Russie qui dit « bah oui, visiblement, c'est lui qui a triché avec les autres »
Pour le coup, il n'y a jamais eu véritablement de... on n'a pas pointé du doigt Poutine. Ça a plutôt été le ministre des Sports qui a été plutôt, on va dire, qui a un peu pris la vague dans le...
Il a payé pour les autres, en gros.
C'est un peu l'idée, en sachant qu'il est encore en poste. Mais pour l'instant, ça c'est pas encore véritablement remonté à Poutine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a toujours cette logique de dire attendons la prochaine décision du CIO, attendons la prochaine décision de la Fédération internationale, attendons la prochaine décision du TASS pour pouvoir savoir si oui ou non on considère que la Russie est responsable, etc.
Mais aux yeux du public, est-ce que c'est une injustice qui est en train de se passer pour les athlètes russes?
Alors en tout cas en Russie, c'est considéré comme une grave injustice, puisqu'on considère que les personnes qui se sont dopées et qui ont reconnu s'être dopées, ou plutôt qui n'ont pas pu nier le dopage, sont considérées comme peut-être des brebis galeuses et qui ne font pas du tout partie d'un système qui aurait été mis en place. Et puis, il y a toujours le système de, bah oui, mais en même temps, pour être les plus performants...
Donnons-nous les moyens d'être aussi performants.
Voilà, c'est un peu l'idée qu'on peut retrouver dans certains articles et sur certaines prises de position. Mais c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'impacte pas, ne touche pas directement Vladimir Poutine. Là encore, on va voir dans les prochains jours, il va potentiellement y avoir de nouveaux éléments, de nouvelles révélations, puisque le rapport va être publié en donnant toujours plus de précisions sur ce qui s'est passé et la façon dont ça s'est passé.
Donc on attend effectivement ce qui peut se passer derrière, et quelle sera la réaction de la Russie, la réaction de Poutine dans ce moment très russe en fait dans lequel on entre en termes d'actualité. Un dernier mot, Carole Gomez, quand même, je vous écoute nous parler de la Russie, du fait que on essaye d'aligner les compétitions l'une après l'autre, les Jeux Olympiques, un circuit de Formule 1 ouvert, une compétition de foot, et là je me dis attendez, les Jeux Olympiques, nous aussi, un circuit de Formule 1, nous aussi, une compétition de football, nous aussi, sauf que c'est du rugby et c'est
il y avait l'Euro
en 2023, mais il y avait l'euro. Finalement, cette diplomatie-là qu'utilise Poutine, on peut toujours le regarder, mais on fait exactement la même, en fait.
Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en final, le terme de diplomatie sportive, elle est extrêmement large. Il peut y avoir des personnes qui vont plutôt mettre en place des diplomaties sportives d'accueil de grands événements sportifs. La différence avec la diplomatie française, c'est qu'il y a à la fois ce côté de grand accueil de compétitions sportives, mais aussi, il y a cette volonté d'accompagner l'économie du sport française et de développer des entreprises qui travaillent dans le domaine du sport, puisqu'on a tendance à complètement oublier cet aspect économique-là, qui est pourtant extrêmement important et sur lequel la France est extrêmement performante. Donc du coup, c'est vraiment cet accompagnement sur le long terme. Accueillir des événements sportifs pour accueillir des événements sportifs, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est plutôt arriver à faire vivre tout ce qu'il y a autour.
Et une toute dernière question dans le même ordre d'idée. Lorsque la Chine a accueilli les JO, on en avait beaucoup parlé avant. Est-ce que réellement, en termes de diplomatie, ça a été un grand bond en avant, si je puis dire, pour la Chine? Est-ce que ça leur a vraiment servi?
À tel point que...
Il y a un avant, un après.
Ouais. Alors, en fait, c'était vraiment une reconnaissance. C'est arriver à obtenir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2008. Ça a véritablement fait entrer la Chine parmi la cour des grands sportivement, et qui du coup n'a fait que renforcer sa volonté de s'imposer sur la scène économique et politique. Et on le voit aussi avec son intérêt aujourd'hui avec le football, avec ses nombreux investissements dans le football. Il ne faut pas non plus oublier qu'elle accueillera en 2022 les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Donc ce sera la première ville à accueillir à la fois les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été, mais aussi d'hiver.
Et ben, ce sera l'occasion de revenir nous voir dans Un Jour dans le Monde.
Avec plaisir.
Carole Gomez, merci mille fois, chère Solja Liris, spécialiste donc de l'impact du sport sur la diplomatie.
France Inter, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Et la suite d'Un jour dans le monde au Kurdistan qui, après l'euphorie du référendum, déchante un peu, voire beaucoup. À suivre aussi l'actu en série Brexit saison 2. Antoine Gignon, un peu d'humour british, ça doit pas nous faire de mal.
Absolument, à force de vivre dans un pays où le gouvernement multiplie les gags, les scénaristes s'en sont emparés. Il y a maintenant une série sur le Brexit.
Eh ben écoutez, on voit ça ensemble. Donc tout à l'heure, 18h55, c'est Anthony Bélanger. Tiens, ça va pas vous dépayser Antoine, puisqu'on va parler de mariage princier, de robe meringue, d'actrice divorcée et autre chose du même genre. Voici Noël Gallagher sur France Inter, It's a Beautiful World. Gallagher nous dit « It's a beautiful world ». Eh bien, s'il le dit, allez, pourquoi pas. Voici Florence Paracuelos. Power Hit Radio. Magique FM.
Terra de la Tula. Desservi Prispo. 60 Minutes.
Florence Paracuelos sous les radars pour aller dénicher l'actualité internationale cachée dans les recoins de la planète. Direction le Pakistan pour commencer. Florence, le gouvernement là-bas vient de capituler sur la route d'Islamabad.
Une autoroute, en l'occurrence Fabienne, principal accès à la capitale pakistanaise. Elle était occupée depuis 3 semaines par des milliers de partisans d'un groupe islamiste. Ce qu'ils demandaient, ils l'ont obtenu aujourd'hui. C'est la démission du ministre de la Justice. Ils vont donc lever le camp, comme le leur a demandé leur chef. Alors pourquoi réclamait-il la peau du ministre de la Justice? Parce qu'il a eu le malheur de vouloir modifier très légèrement le texte du serment que doivent prononcer les candidats à une élection, et notamment la phrase par laquelle ils reconnaissent que Mahomet est le dernier des prophètes. Colère des extrémistes en général et du groupe qui a fait un sit-in sur l'autoroute en particulier. Pour eux, le ministre s'est rendu coupable de blasphème. Il a voulu promouvoir les Ahmadis, fidèles d'une secte musulmane réformatrice, fidèles persécutés au Pakistan, en Afghanistan et en Arabie Saoudite où on ne les considère même pas comme des musulmans. Devant la polémique, l'amendement a très vite été retiré. Les autorités ont tenté de déloger les manifestants ce week-end. Ça s'est soldé par la mort de 7 personnes jusqu'à la démission du ministre ce matin. Le gouvernement a donc cédé aux extrémistes et cela s'ajoute à la libération la semaine dernière du cerveau présumé des attentats de Bombay en 2008, dirigeant d'un autre groupe extrémiste. Il était assigné à résidence.
Et Florence, ça pourrait presque être un feuilleton du lundi. Vous nous amenez encore au Venezuela.
Buenos días, Venezuela.
Le Venezuela où Nicolas Maduro s'exprime à la télé tous les dimanches soirs. Domingo con Maduro, 97e hier soir, et du lourd à annoncer à son bon peuple. J'annonce la nomination du général Manuel Quevedo comme président de notre industrie pétrolière et de notre bien-aimé PDVSA. Général qui devient aussi ministre du pétrole. Les grandes manœuvres ont commencé dans le seul secteur stratégique du pays, le seul à rapporter de l'argent, en tout cas avec ses réserves inépuisables, le seul donc à pouvoir éponger un peu la dette que le Venezuela ne peut plus rembourser. Le problème, c'est que la compagnie nationale elle-même ne rembourse plus ses prêts. Elle n'investit plus dans ses infrastructures, donc elle produit moins de pétrole et du pétrole qui se vend de moins en moins cher avec la chute des cours. La corruption a été désignée comme seule responsable de la situation. Maduro a fait arrêter tous les patrons de la filiale américaine de la PDVSA la semaine dernière. Fini la rigolade. Camarades, l'heure a sonné pour une révolution pétrolière et énergétique contre la corruption, contre les bandits. Pour nettoyer la PDVSA. Je le dis et je ne vais pas faire que le dire, je vais le faire. Lo vamos a hacer, nous allons le faire. Voilà pour la restructuration socialiste dans le texte confié à un général de l'armée. On notera également avec cette annonce que les militaires étendent leur pouvoir économique. Eux qui contrôlent déjà l'industrie minière et gazière, la distribution de nourriture, une télé, une banque, une usine d'assemblage de voitures. Ils détiennent aussi le pouvoir politique puisque 14 ministres issus de l'armée font désormais partie du gouvernement Maduro qui compte 32 ministres.
Vous avez remarqué, vous aviez un tic gestuel quand vous parlez de Maduro, vous levez le bras
comme lui.
Maduro du dimanche. Exactement. Domingo Maduro. Direction la Chine, Florence, pour finir.
La Chine où tout sent la révolution, y compris les toilettes publiques, c'est très sérieux. La Chine doit poursuivre sa révolution des toilettes. C'est le président Xi Jinping qui l'a dit.
Xi Jinping s'est
Et oui, sur ordre du président, la Chine va poursuivre sa route vers un avenir radieux dans les toilettes publiques. Une révolution qui a commencé en 2015 pour en finir avec l'épouvantable saleté de ces lieux publics que vous connaissez, Fabienne, je crois. 70 000 WC rénovés depuis, j'ai souvenir.
J'ai dû vous raconter ça une fois.
Donc 70 000 WC rénovés depuis 2015. Il faut faire mieux.
Ce qui est compliqué en Chine, c'est le collectif.
Alors ça, on n'en parle pas dans la chronique.
Non, on n'en parle pas.
Il faut faire mieux, dit Xi. Encore 64 000 à installer ou à améliorer d'ici 2020, à l'image de ce qui a été fait autour du plus grand lac chinois, le Qinghai, attraction touristique nationale. Là-bas, les autorités ont investi pas loin de 2 millions de dollars pour le confort de plus de 3 millions de visiteurs chaque année. Ça n'est pas une affaire négligeable, a dit le président chinois. C'est important pour le tourisme, mais aussi pour les masse laborieuse et pour la civilisation tout entière.
Ce qui est vrai. Merci beaucoup, Florence Paracuelos, dans Un jour dans le monde. Allez, à demain.
France Inter, le 18-20.
Nous sommes au Kurdistan ce soir. Vous vous souvenez qu'on en a parlé ici même il y a 2 mois de ce référendum au Kurdistan, majorité écrasante du oui, oui à l'indépendance, c'était le 25 septembre dernier. Donc à peine 2 mois seulement, il y a à peine deux mois seulement, et aujourd'hui tout a changé. Bonsoir Oriane Verdier.
Bonjour Fabienne.
Depuis le 25 septembre, Oriane, la région du nord de l'Irak a perdu une grande partie des territoires qui avaient été conquis lors de la guerre contre Daesh, des terres disputées de longue date entre Erbil et Bagdad. Bagdad a remis la main conçue par la force, secondée par des milices. Et puis la région est fissurée aussi en interne par une grave crise économique et politique. Bref, après l'euphorie, la déprime, Oriane, et c'est ce que vous nous racontez.
Nous sommes dans le camp de Sourdash, au pied des montagnes entre les Kurdistans irakiens et iraniens. C'est ici que plusieurs centaines de familles kurdes ont trouvé refuge après avoir fui Kirkuk et la ville voisine de Tuzkurmatu lors de l'avancée des forces irakiennes sur ces territoires contrôlés par les Peshmerga depuis 2014. Devant un petit magasin de fortune, Ahmad Erebar peine à imaginer leur avenir. Ils se sentent trahis par les politiques kurdes.
Nous avions fui dans la montagne. Depuis cet endroit élevé, on voyait les véhicules militaires des Hashd al-Shabi s'approcher et attaquer les checkpoints kurdes. Les Peshmerga ont essayé de contre-attaquer, ils ont explosé un véhicule militaire et une voiture. À côté de nous sur la montagne, il y avait beaucoup de Peshmerga. Je leur ai dit, vous avez des armes très lourdes, pourquoi vous ne frappez pas? Ils nous ont répondu, on a reçu l'ordre de ne pas tirer. Et en fuyant, ils ont abandonné beaucoup d'armes et de voitures.
Ils ont vendu notre territoire contre de l'argent et des puits de pétrole. L'UPK et le PDK, les deux seuls partis au pouvoir au Kurdistan, ils ont été achetés. On leur a donné 4, 5 puits de pétrole et eux, ils ont donné nos villes, vendu Kirkuk et Tuzkurmatu.
L'abandon de ces territoires représente aussi une importante perte économique. Plus de la moitié des revenus pétroliers du Kurdistan irakien étaient extraits de Kirkuk. C'est au milieu de ce chaos, alors que sa légitimité en tant que président était remise en cause depuis plusieurs années, que le président Massoud Barzani, à la tête de la région autonome depuis la chute de Saddam Hussein, a décidé de rendre les armes, refusant la troisième prolongation de mandat qui lui était proposée. Le jour de cette annonce, de nombreux députés réagissent à la démission du président devant une foule de journalistes réunis dans l'enceinte du Parlement, parmi eux Rabun Marouf, membre de l'opposition.
Monsieur Massoud Barzani affirmait vouloir unifier les forces des Peshmerga. Mais aujourd'hui, nous avons toujours plus de deux forces Peshmerga séparées. Il affirmait vouloir unifier le gouvernement du Kurdistan et lui-même avoue qu'il n'a pas pu le faire. Il voulait soi-disant rendre l'économie du Kurdistan indépendante, que les oléoducs ne passent que par le Kurdistan. Un communiqué officiel disait qu'un million de barils de pétrole passaient chaque jour les frontières du Kurdistan. Mais le cadeau de cette indépendance économique a été de couper de 75% les salaires des fonctionnaires. Aujourd'hui, après la catastrophe de Kirkuk, le gouvernement, la politique de M. Barzani et l'autorité des deux principaux partis, UPK et PDK, sont responsables de la situation dans laquelle se trouve le peuple kurde.
Une vingtaine d'hommes se jettent sur le parlementaire. Il sera frappé pour avoir osé critiquer Massoud Barzani, pour avoir cru être libre de s'exprimer dans ce symbole démocratique qu'est le Parlement. Ce jour-là, les plus fervents partisans de Massoud Barzani sont dépités. Ils ont perdu leur meneur. La violence dépasse les murs du Parlement. Des journalistes critiques seront également frappés, des bureaux de rédaction mis à sac. Le rêve d'indépendance est bien loin. La région avance maintenant sans son guide. L'heure est venue de baisser la tête et d'accepter de négocier avec Bagdad, affirme le porte-parole du Conseil central de l'UPK, Latif Nalwaya.
Il n'y a plus qu'une seule option. Le monde entier était unanimement opposé au référendum. Ni les pays voisins, ni personne ne voulait qu'il ait lieu. Cela a bénéficié à Bagdad, qui en a profité. Aujourd'hui, le gouvernement du Kurdistan irakien a donné son accord pour envoyer à nouveau la source de ses revenus à Bagdad. En échange de quoi, Bagdad doit à nouveau envoyer 17% du budget national à la région et payer les Peshmerga et les fonctionnaires. Nous, UPK, nous soutenons cette initiative du gouvernement du Kurdistan. Nous espérons que la délégation du Kurdistan et Bagdad se réunissent bientôt sur la même table.
Malgré l'échec cuisant de cette marche vers l'indépendance, les Kurdes veulent garder espoir. Nombre de Peshmerga continuent de défendre ce qu'il reste des frontières kurdes. Jafar est colonel. Aujourd'hui, il est assigné à Peldé sur la route entre Kirkuk et Erbil. Malgré la tristesse d'avoir laissé derrière lui des terres pour lesquelles certains de ses hommes sont morts, Jafar refuse de perdre espoir.
Ce jour-là était terrible. Il y a eu une guerre difficile entre le gouvernement irakien et les Peshmerga qui a fait beaucoup de martyrs. C'était très dur. Erbil, Dohuk et Zako étaient en danger direct. Mais il faut que nous continuions à lutter. Après ce qui nous est arrivé, il faut que nous nous relevions à nouveau. Il ne faut pas abandonner Kirkuk, il ne faut pas abandonner le Kurdistan. Cela demande beaucoup d'efforts et de sacrifices, mais on ne peut rester assis sans rien faire. Il ne faut pas que l'ennemi vienne à nous et que nous restions bras croisés. Nous sommes faits pour protéger ce territoire et pour protéger notre patrie.
Pour l'heure, les combats sont à l'arrêt. Chacune des deux forces tient ses positions. Soldats et familles attendent, comme suspendus dans le temps, de savoir à quels accords politiques arriveront les gouvernements kurdes et irakiens afin d'éviter que plus de femmes, d'hommes et d'enfants ne soient tués dans ce conflit qui dure depuis maintenant des dizaines d'années.
Oriane Verdier pour Un jour dans le monde sur France Inter, merci.
Dutchy pan the left hand side, pass the Dutchy pan the left hand side. It a go burn.
Give me the music, make me jump and
fly. It a go done.
Give me the music, make me jump and
fly. It is a cool and lonely breezy afternoon.
How does it feel when you got no food?
I could feel it 'cause it was the month of
June. How does it feel when you got no food?
So I left my gate and went out for a walk.
How does it feel when you got chip on the left hand side, pass the touchy on the left hand side. It a go bun.
Give me the music, make me jump and fly.
It a go done.
Give me the music, make me look in a di down. Bang 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 bang.
So I stopped to find out what was going on.
How does it feel when you got no food?
'Cause the spirit of Jah, you know he leads you on. Session was there in swing.
How does it feel when you got no food?
I could feel the chill as I seen and heard them sing.
How does it feel when you got no food?
Pass the Dutchy on the left hand side. Pass the Dutchy on the left hand side. It a go bun.
Give me the music, make me jump and fly.
It a go done.
Give me the music, make me rock in a di da. So me say listen to the drum and me say listen to the bass.
Chip on the left hand side, pass the Dutchy on the left hand side. It a go bun.
Give me the music, make me jump and fly.
It a go done.
Give me the music, make me rock in a di da. You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo. And so me know we a go play it on the disco. And so me say we a go hear it on the stereo.
Pass the
Dutchy
on the left hand side. Chip on the left hand side, it a go bun.
Give me the music, make me jump and fly.
It a go done.
Give me the music, make me rock in a di da.
On the left hand side.
Allez, Musical Youth, vous je sais pas, mais pour moi on est en 1982 et j'ai une boum.
France Inter.
The United Kingdom is leaving the European Union.
Fabienne Saint-Esse.
This is an historic moment.
Un jour dans le monde.
À l'actualité en série, le lundi, le Brexit saison 2, épisode 12 ce soir. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Antoine, le Brexit et la sortie de l'Union est en train de devenir chez vous une série télé. On avait presque envie de dire, il était temps. Le show en tout cas, le plus populaire du moment, en fait son thème favori.
Absolument, comme il se passe chaque semaine, un scandale, une trahison, une gaffe ici. Du coup, ça donne des idées aux scénaristes et notamment à Tracy Ullman. Tracy Ullman, c'est cette actrice comique qui a la double nationalité américaine et britannique, l'une des vedettes de l'émission Saturday Night Live, eh bien, elle a décidé d'incarner à la BBC tous les personnages impliqués dans le Brexit. Elle est maquillée, déguisée, elle fait Jeremy Corbyn chez les travaillistes, elle fait Nicola Sturgeon chez les indépendantistes écossais, et évidemment Theresa May, la première ministre, le visage tiré, d'énormes valises sous les yeux, en train de discuter avec un de ses conseillers.
What kind of an was that, dear?
Apparently, I've got to organise.
Je vous donne la traduction. Apparemment, dit-elle, il faut que j'organise la fête de Noël du Parti conservateur. Et elle ajoute, il faut que je me débrouille pour que tout le monde soit content. Ils ont travaillé dur. Et puis surtout, s'il y a encore un député qui s'en va, tout mon gouvernement s'écroule. Le conseiller politique la regarde et il répond. Noël va arriver avant qu'on ait le temps de s'en apercevoir et nous ne sommes pas prêts. C'est un peu comme le Brexit. Il enchaîne évidemment le conseiller. Il faut éviter tout nouveau débordement après la démission du ministre de la Défense sur fond d'affaires de harcèlement sexuel le mois dernier, la trentaine de députés conservateurs mêlés à des scandales. Il ne faut plus aucun dérapage. Et du coup, Theresa May conclut.
So we've got a Christmas party with no touching, no dancing.
Alors nous allons avoir une fête de Noël où personne ne se touchera, personne ne dansera, il n'y aura pas d'alcool ou à peine, et ce sera dans une atmosphère de peur ou de reproche. Mais dit-elle, j'ai peur que ce soit encore trop gay pour le DUP. Le DUP, c'est le parti ultranationaliste nord-irlandais, anti-avortement, anti-mariage gay, pas festif, mais indispensable, parce qu'il permet aux conservateurs d'avoir la majorité des sièges à l'Assemblée et qu'il faut le ménager, parce qu'il s'inquiète en ce moment, le DUP, de ne pas voir de progrès dans les négociations sur le Brexit.
Bah tiens Antoine, puisque je vous tiens, elles en sont où ces fameuses négociations sur le Brexit ?
En fait, il reste une question qui pose encore véritablement problème, c'est celle de la frontière en Irlande entre le Sud et Dublin, qui continuera à faire partie de l'Union Européenne, et puis Belfast au Nord qui n'en fera plus partie. Comment faire pour sécuriser les 250 points de passage empruntés chaque jour par 30 000 personnes ? Eh bien en fait, personne n'a la réponse. Le gouvernement britannique dit qu'il utilisera une solution technique, informatique, mais qu'on n'en parlera pas tant qu'on n'a pas commencé à discuter des futurs accords commerciaux. De l'autre côté, Dublin, qui veut un statut spécial pour toute l'île, refuse de commencer à parler des accords commerciaux tant qu'on n'a pas tranché la question de la frontière. C'est la question de la poule et de l'œuf. Les Irlandais menacent de poser leur veto pour bloquer toutes les négociations. Vous le voyez, on n'a pas beaucoup avancé.
Alors du coup, dans la série de Tracy Ullman dont vous parliez à l'instant, elle en parle de ces négociations ? Elle s'en empare de cette frontière ou pas ?
Elle parle surtout des principaux chefs d'État qui sont assis autour de la table des négociations et notamment d'un certain Emmanuel Macron et de sa femme avec Tracy Ullman déguisée en Brigitte Macron, ultra maquillée, le visage lissé comme si elle avait fait de la chirurgie esthétique. Voilà un extrait.
Emmanuel, c'est moi, Brigitte. How are you, mon petit président ?
Alors évidemment, la scène se passe dans un fauteuil de l'Élysée. Avec un président totalement caricatural, je vous donne la traduction.
Allez-y.
La France me contrarie tellement, dit-il. Je viens de passer 4 heures en réunion avec les syndicalistes. On a déjeuné pendant 3 heures. Le reste du temps, ils étaient en grève. Tout ce que je veux faire, explique Emmanuel Macron, c'est écraser les syndicats et enlever leurs droits aux travailleurs. Pourquoi est-ce que ça pose un problème aux gens ? Et il conclut, Margaret Thatcher l'a bien fait et tout le monde l'aimait bien à l'époque. Alors évidemment,
ce qui n'est pas tout à fait juste au passage, mais enfin, pardon, allez-y.
C'est tout à fait corrigé d'ailleurs par la Brigitte Macron de cet épisode de la BBC qui lui rappelle qu'il n'était pas vraiment né ou encore grand dans les années 80 et que du coup il y a quelques corrections à faire, à voir aussi ce moment où Emmanuel Macron rencontre Angela Merkel et il lui explique « Je penserai à vous lorsque je traverserai le centre de conférence ce soir, à moitié nu, le torse en sueur ». C'est très décalé, ça s'appelle « Tracy Breaks the News », 3 épisodes à voir au total et ils sont tous en ligne sur le site de la BBC.
Formidable. Très dans l'esprit, effectivement, vous le disiez, du Saturday Night Live américain. Et en même temps, les chiens font pas des chats, puisque Tracy Ullman y a beaucoup, beaucoup participé. Allez, tiens, vous l'avez entendu rigoler à l'instant, c'est qu'il est là, Anthony Bélanger. Et on ne change pas de pays, Anthony, grâce à vous. Bonsoir d'abord.
Bonsoir Fabienne.
L'info du jour pour les Britanniques n'a rien à voir avec la frontière irlandaise dont on parlait à l'instant. L'info du jour, c'est Meghan Markle et le prince Harry qui vont donc se marier. Et avant tout, tout cela est géopolitique.
Et je vais même tenter de vous le démontrer. D'abord, il va falloir cesser d'appeler cette jeune femme de 36 ans Meghan. Meghan, c'est son deuxième prénom. Elle s'appelle en fait Rachel. Et ce n'est pas un détail, tout simplement parce qu'elle est de confession juive. Et c'est donc la première des transgressions de ce futur mariage qui en compte beaucoup. Mais la principale étant bien sûr sa nationalité, parce qu'elle est américaine, ce qui était jusqu'à présent une sorte de tabou au sein de la famille royale. Vous savez, la dernière fois qu'une américaine est entrée dans la famille royale, elle s'appelait Wallis Simpson. La volonté du roi Édouard VIII de l'épouser a conduit à son abdication en clair. Si Elizabeth est aujourd'hui sur le trône depuis plus de 64 ans, eh bien c'est à cause d'une américaine deux fois divorcée.
Et la fameuse Meghan qu'on ne doit plus appeler Meghan, est aussi divorcée.
Oui, mais les temps ont changé, Fabienne. Et oui, 3 des 4 enfants de la reine sont divorcés. Lorsque Charles, l'héritier du trône, et Camilla se sont mariés, les deux étaient eux-mêmes divorcés. Il est même désormais possible au tourtereau de se marier à Westminster, vous savez, en 2002, l'église en cliquane, dont la reine d'Angleterre est
donc
la chef.
Donc en blanc, vous voulez dire ?
Oui, c'est possible, béni par le prêtre, l'archevêque, a autorisé les divorcés donc à se remarier religieusement. Autre temps, autre mœurs. Mais la vraie nouveauté est ailleurs. Rachel Meghan Markle, est noire, ou plutôt métisse. Sa mère est afro-américaine et son père blanc. Et pour le Royaume-Uni, eh bien ce mariage est un peu leur moment Obama à eux. La famille royale ressemble enfin à la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, un pays mixte, religieusement, culturellement, ethniquement, une Grande-Bretagne ouverte sur le monde, l'inverse de l'image renvoyée par le Brexit.
Alors effectivement, ça commence avec une bonne nouvelle, mais qu'est-ce qui vient faire là-dedans le Brexit ?
Bon, d'abord, le gouvernement britannique s'est toujours servi des mariages royaux pour sortir le pays de la dépression. Celui-là aura lieu au printemps 2018, c'est-à-dire pile au moment où la Grande-Bretagne entrera dans le cœur des négociations avec l'Union européenne. Et puis ensuite, Rachel Meghan Markle est la preuve vivante et souriante de l'esprit d'ouverture et de la continuité historique de la Grande-Bretagne. Souvenez-vous de la phrase de Churchill, entre l'Europe et le grand large, nous choisirons toujours le grand large. Eh bien, la future mariée est américaine de nationalité, canadienne de résidence, elle vit à Toronto, et aujourd'hui britannique par son futur mariage, on dirait une carte du Commonwealth, ancienne et nouvelle manière à elle toute seule.
Voilà, donc le mariage anti-Brexit, maintenant vous allez m'en faire le mariage anti-Trump.
Bien sûr que je vais le faire. Cette Amérique,
je vous en prie.
Quelle Amérique défend Donald Trump ? Une Amérique repliée sur elle-même, se méfiant de la globalisation, mais surtout une Amérique blanche et conservatrice. Le mariage de Rachel, Meghan Markle, divorcée, métisse, juive et états-unienne, avec le prince Harry, cinquième dans la ligne de succession, bientôt sixième d'ailleurs, au plus ancien trône d'Europe, est une parfaite carte de visite. C'est joindre, évidemment, l'utile à l'agréable.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Anthony Bélanger. Anthony, tiens, puisque je vous tiens, vous animez tous les mois les rendez-vous de l'actualité. Ça se passe à l'Institut du Monde Arabe.
Oui.
Profitez-en. C'est ce mercredi, dans deux jours, donc le 29 novembre, à 19h. Quel thème ? Quelques invités ?
L'Arabie Saoudite, Bertrand Badie et Stéphane Lacroix. Ça va être passionnant.
Et ben voilà, on vous y retrouve, si on le veut, en tout cas, à l'Institut du Monde Arabe, le mercredi 29, c'est à partir de 19h. Le 18-20 continue sur France Inter, avec le journal de Sébastien Paour, et puis le téléphone sonne.